Mémoire d'une aveugle, 11e partie. Chapitre 49. Le carrosse de Monsieur le duc d'Orléans attendait. Un carrosse simple, sans armoirie, tel qu'il les prenait pour ses excursions amoureuses. Il y était seul. Cela lui arrivait souvent. Il aimait à se débarrasser de son entourage. Moi, je n'en avais pas. Madame de Parabère devait me renvoyer. C'était convenu. Enveloppé dans un coqueluchon, avec ma jupe d'indienne courte et mon mantelet de taffetas noir, je ressemblais, en effet, beaucoup plus à une fille de chambre qu'à une marquise. Le prince me donna la main, me fit monter la première. J'étais si troublée que je n'entendis pas les ordres qu'il donna. Nous étions près du palais royal, loin de chez moi. Je devais facilement m'apercevoir du lieu où il me conduisait, mais je l'avoue, je n'y pensais point. Monsieur le régent ne me dit pas un mot. Pour rompre le silence que je gardais, il hasarda quelques observations sur le temps et sur la chaleur. Je ne lui répondis pas. « Où ordonnez-vous que je vous conduise, madame ? » dit-il. « Chez moi ? » répliquai-je d'une voix émue et indécise. « Cela est bien décidé ? Vous me refusez la légère condescendance que je vous ai demandée ? Mon Dieu, monseigneur, que vous importe ? Je suis une étrangère pour vous. Je n'ai pas l'honneur d'être de l'intimité de votre Altesse royale. C'est la troisième fois que nous nous rencontrons. Je ne suis qu'une pauvre provinciale, bien ignorante et bien éloignée des habitudes de la cour. Je vous ennuierai. » « Le pensez-vous, madame ? » « Certes, monseigneur, je le pense. » « Vous ignorez quels sont les ennuis que j'éprouve, je le vois bien. Ou plutôt, ce ne sont pas des ennuis, c'est de la tristesse. »« Vous, triste, monseigneur ?» « Oui, madame, moi, triste, profondément triste, au milieu des orgies, des plaisirs, des amours faciles. Moi, triste, sans amis, sans confiance autour de moi. » J'ai des instants de découragement terribles, et celui-ci est un des plus forts que j'ai éprouvés depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je vous en tourmente. Pardonnez-le-moi, et laissez-moi indiquer votre adresse à mon laquais. » Ce n'était pas mon compte. J'avais grande envie de ce tête-à-tête et de ses confidences, mais je voulais être forcée, et la facilité avec laquelle il y renonçait piquait mon amour-propre et me montrer qu'il n'y tenait guère. Je me trouvais fort embarrassée. « Monseigneur, » dis-je timidement. « Madame, je suis vraiment affligée des chagrins de votre Altesse royale. Je voudrais... »« Me consoler, mais vous ne vous en sentez pas le courage. Je connais ces paroles, je les ai entendues tant de fois. Mes maîtresses et mes reines me délaissent lorsque je suis dans mes humeurs noires. » Jusqu'à ma fille qui me les reproche. À la cour, lorsqu'on n'amuse pas les gens ou lorsqu'on ne leur donne rien, on n'est bon qu'à laisser dans un coin, qu'à cuver sa tristesse. Je fus entraîné par ses plaintes. Il faut penser que j'avais 20 ans, un cœur encore tout provincial, et que la jeunesse ne cède ses droits sur personne, si ce n'est sur les monstres, et je n'en étais pas un. J'eus un élan magnifique. « Moi, monseigneur, je ne vous abandonnerai pas. Je vous suis. »«
Bien vrai ?»«
Bien vrai. Je me croirai coupable en vous laissant seul dans l'état où vous êtes. »«
Vous avez raison. Je resterai seul, car Dubois lui-même ne voudrait pas travailler avec moi dans l'état où je suis. Il appelle cela mes jours d'éclipse et prétend que je ne comprends rien. »
Il se leva, cria par la portière quelque chose à ses gens. Mon sort était décidé. Cependant, nous allions toujours, et nous devions être arrivés, d'après mon calcul. J'en fis l'observation au prince. « Nous n'allons pas au palais royal, » me répéta-t-il.
« Et où donc, monseigneur ?»«
Dans un petit logis que je possède auprès de l'abbaye de Longchamp, où je me réfugie quelquefois, » et que très peu de personnes connaissent. Il ne faut pas que votre acte de charité vous fasse tort et que l'on vous voie au palais royal.
c'est un lieu mal famé, où une personne comme vous ne doit pas être exposée à la risée, aux observations des oisifs et des méchants. » Je remerciai son Altesse comme je le devais. C'était de sa part une marque d'estime, et je la méritais, malgré mes étourderies. Qu'était-ce que des étourderies en ce temps-là? On n'eût pu être canonisé si on n'eût rien eu de plus lourd sur la conscience. La conversation s'engagea dès ce moment, intime et sans prétention. Le prince me questionna sur ma famille, sur mes projets, sur mes désirs, sur Monsieur du Deffand et ses capacités. Je lui répondis non comme au régent de France, mais comme à un ami. Il en avait les façons avec moi, lorsque la vertu la plus sévère n'a rien à y reprendre. Je fis une allusion involontaire à ce respect si flatteur qu'il me témoignait. Vous n'avez connu, madame, ni le feu roi, ni feu monsieur, mon père. Vous seriez moins étonnée de ma conduite. Jamais hommes ne montrèrent aux femmes un respect plus profond et des égards plus complets. Louis XIV saluait même les jardinières dans le parc de Versailles, et cela devant toute sa cour, qu'il forçait ainsi à en faire autant. On m'a appris, depuis mon enfance, que la première qualité d'un gentilhomme était justement ce respect et cette déférence envers votre sexe. Jamais, que je sache, aucune dame de qualité n'a été traitée par moi autrement que je ne le fais aujourd'hui, à moins qu'elle ne m'y ait autorisé, toutefois. Cette explication chassa loin de moi les soupçons et les craintes. Je me sentis parfaitement à mon aise et enchantée du parti que j'avais pris, malgré la voix de la prudence. Le prince me semblait un héros de vertu, affreusement calomnié. Le temps passa vite en route, et nous arrivâmes. On s'arrêta à la grille d'un jardin, on agita la sonnette. Le carrosse entra, un homme et une femme se présentèrent à la portière, saluèrent très humblement. « Y a-t-il quelque chose à manger ici ?» demanda le régent d'un ton affable. « Un souper tout prêt, monseigneur. Nous ne sommes jamais pris au dépourvu. » Nous descendîmes. Je gardai mon coqueluchon. Le carrosse et les gens disparurent sous une voûte. Il ne resta que l'homme et la femme dont j'ai parlé. Monsieur le duc d'Orléans me tendit la main. « Venez, madame, et pardonnez-moi la façon dont vous serez reçue. On ne nous attendait pas. » « Nous attendons toujours, monseigneur, » répliqua la concierge un peu piquée. « Je n'ai pas besoin de réclamer l'indulgence, alors. Il n'y a pas au palais royal ni chez les plus riches de messieurs les traiteurs un cuisinier aussi habile que toi, ma bonne Nanette. » « Et tout le monde ne mange pas de ma cuisine, monseigneur. Vous ne m'amenez pas ici vos poupées et vos débraillés. Vous savez bien que je n'en veux point. Quoi que ce soit... » Un coup d'œil sur mon costume leste et sur mes bas tirés nous donna la fin de la phrase. « Jamais, Nanette, tu n'as servi plus grande et plus honorable dame. Sois en repos. » « À la bonne heure. Du reste, je le verrai bien. » Cette Nanette était la sœur de lait du prince, à laquelle il avait donné cette délicieuse petite maison, avec de bonnes rentes, à la charge de le recevoir lorsqu'il y voudrait venir. Nanette avait son franc-parler, comme le vieux valet de chambre du palais royal. Elle avait accepté le bail et la clause, en y ajoutant une autre à sa façon. Elle ne voulait absolument pas de ce qu'elle appelait des poupées et des débraillés. Point d'orgie, point de débauche, un souper tranquille, jamais plus de deux ou trois personnes. Et encore prétendait-elle les choisir. Les valets et toute la séquelle du palais royal, toujours selon les expressions de Nanette, étaient bannis de la petite maison. On les envoyait à un tournebride construit exprès. Nanette et son mari servaient seuls à table. Elle aimait le prince d'une affection très vive, très sincère, très désintéressée. Elle ne lui cachait rien, et lorsqu'il voulait apprendre la vérité sur l'opinion publique ou sur quelque acte de son gouvernement, il s'adressait à elle. Strictement honnête femme, elle le sermonnait sur ses mœurs, et surtout sur la conduite de madame, la duchesse de Berry, dont elle ne pouvait se taire. « Si j'avais une fille de cette espèce, disait-elle, je la ferais enfermer, et fût-elle 10 fois princesse, elle le mérite encore davantage, car elle doit l'exemple à sa cour. » Monsieur le régent baissait l'oreille sans répondre, tant il sentait la justesse de ses remontrances. Nanette grondait jusqu'à madame, parce que, disait-elle, elle aurait dû mettre l'ordre dans sa famille. « Ah, si sa mère existait, croyez-vous, madame, qu'elle aurait souffert tout cela et qu'elle n'aurait pas morigéné Philippe de la bonne sorte? On peut lui passer quelques maîtresses, parce qu'il a une femme qui ressemble à un canapé et à laquelle il ne faut que des coussins pour s'étendre et dormir. D'ailleurs, n'en déplaise au feu roi, notre maître, elle était peut-être bien faite pour être sa fille, je ne dis pas. Mais sa femme, oh non! Et si j'avais été monsieur, si j'avais été vous, si j'avais été Philippe, je n'aurais jamais accepté cet affront-là. Qu'il la trompe un peu, il n'a pas tort. Seulement, point de ses rouées et de ses dévergondées. Ne peut-il donc s'amuser autrement? Madame de Parabère, madame de Sabran, aucune des maîtresses en titre du prince, ni madame la duchesse de Berry, n'avait mis le pied au Retiro. Ainsi s'appelait cette maison. Le prince y venait le plus souvent avec des hommes sérieux. Quelquefois, il y conduisait les rares exceptions qu'il voulait marquer. Jamais il ne manqua à la parole donnée à Nanette. Le cardinal Dubois, surtout, en était exclu. C'était l'objet principal de la haine de la bonne femme. Elle l'accusait d'avoir perdu le prince et lui eut fermé la porte au nez. Je fus introduite à travers plusieurs pièces d'une grande élégance, quoique d'une grande simplicité. Dans une salle à manger délicieuse, pleine de fleurs embaumées et d'oiseaux charmants, qui, trompés par la vive lumière, chantaient comme en plein jour. Je jetai mon coqueluchon et ma mante, j'étouffai. Nanette attendait ce moment pour me regarder. Une expression de tristesse se répandit sur son visage. « Ah ! Dit-elle, vous êtes bien jeune, ma chère enfant. Il est temps de vous arrêter en route. N'allez pas plus loin. » Monsieur le duc d'Orléans se mit à rire, d'un rire un peu forcé peut-être. « Ce n'est pas ce que tu penses, Nanette. Madame est une amie, pas davantage. » « Raison de plus pour s'arrêter en route. Ne sais-je pas où conduisent de pareilles amitiés ? Voyez où vous en êtes arrivé, Philippe. » Puisque vos vrais amis doivent vous voir en se cachant, en se compromettant, pour ne pas être compromis davantage ailleurs. Je gage que cette brave dame ne va pas au palais royal, elle. » Je ne répondis point. Je voulais laisser monsieur le régent répondre à sa fantaisie. Il congédia Nanette après 2 ou 3 phrases assez ambiguës, en lui ordonnant d'apporter le souper. Quand nous fûmes seuls, il me fit des excuses, de nouveau, sur les libertés de cette bonne femme et sur la façon dont elle me parlait ainsi qu'à lui. « Mais que voulez-vous ? C'est une ancienne amie, et les amis sont si rares dans notre condition que nous ne saurions trop les conserver. » J'étais loin de m'en formaliser, et j'aurais voulu à ce bon prince, auquel je m'intéressais chaque instant davantage, beaucoup d'amis tels que cette femme-là. Chapitre 50. Le souper fut servi comme par enchantement, et un de ces soupers merveilleux qui semblent éclos sous la baguette d'une fée. Ce n'était pas le luxe et la magnificence d'un palais, c'était mieux. Des cristaux, des porcelaines sans pareil dont les moules étaient brisés, dont les artistes avaient défense de donner des copies. Pas de dorure, une argenterie simple, mais d'un goût merveilleux. Les mets ne furent pas nombreux, on n'en servit que 4. J'y touchai du bout des lèvres, je n'avais pas faim. Le régent mangea de ses bons appétits. Sa préoccupation était visible. Nanette ne manqua pas de le lui dire. « Vous avez quelque chose, Philippe, vous souffrez. » « Nanette, répliqua-t-il en souriant. J'ai mes humeurs, mes tristesses.
Ah, je sais. Allons, madame est véritablement une amie, puisque vous la menez un jour comme celui-là.
Elle causa avec nous tant que dura le service. Lorsque tout fut fini et que l'on eut posé les fruits, Nanette se retira et nous restâmes seuls.
« Eh bien, me dit le prince, un peu réconforté par la bonne chère et l'excellent vin qu'il avait bu.
« Vous le voyez, madame, ce n'est pas bien terrible, un souper tête-à-tête avec ce régent, si entreprenant, si libertin. Vous en allez sortir comme vous y êtes entré, et sans qu'un seul mot, un seul geste de lui ait pu vous blesser.
« Cela est vrai, monseigneur.
Et cependant, vous êtes jeune. » Vous êtes belle. Vous avez un de ces esprits qui distinguent une femme et lui marquent une place à part dans l'histoire d'un siècle.
Moi, monseigneur?
Vous, madame. Laissez venir le temps, et vous verrez si ma prédiction se réalise. Je vous ai observé, je vous ai écouté, et j'ai l'habitude des hommes, je les connais. Notre espèce n'a guère de mystère pour moi. Si l'on me trompe, c'est que je veux être trompée. C'est que je me laisse faire, par paresse et par ennui.
Comment avez-vous le temps de vous ennuyer, monseigneur?
C'est comme si vous demandiez à un malade, comment avez-vous le temps de souffrir?
Cependant, j'ai toutes les occupations de la royauté, tous les plaisirs que je souhaite, n'est-ce pas?
Sans doute. Eh bien, madame, je prends des plaisirs pour oublier les occupations de la royauté. Et les occupations de la royauté pour me soulager des plaisirs. Tout cela me tue.
Il cacha son visage dans ses mains et resta de la sorte quelques secondes.
Oui, je donnerais ce que je possède, de grand cœur, pour habiter avec mes enfants, avec des enfants comme je les désire, avec mes enfants, une femme aimée et quelques amis, une gentilhommerie bien obscure, loin du bruit et de l'éclat. Je voudrais vivre en famille honnêtement, tranquillement, en paix avec Dieu, avec mon curé, avec mes voisins, sans savoir qu'il y ait au monde des rois, des ministres, des ambitieux, des querelles, des ambitions et des guerres. C'est là le vrai paradis, celui que je rêve et que je suis condamnée à ne connaître jamais.
On ne se doute pas de cela, monseigneur.
Non, on ne se doute pas de cela. Nul ne sait ce que je suis, pas même ceux qui m'approchent de plus près, car ils se moqueraient de moi s'ils soupçonnaient ce que je pense. Un seul en a la conscience au fond du cœur et me méprise pour ce qu'il appelle de la bassesse d'esprit, c'est Dubois. Voilà pourquoi il sait si bien me conduire et profiter de tout avec moi.
J'écoutais ce pauvre prince et je le plaignais fort. Il y avait en lui quelque chose de parfaitement bon et de réellement attrayant, bien qu'il ne fût pas beau, au contraire. Ses plaintes me touchèrent et j'essayai de les adoucir. Il m'écouta en secouant la tête d'un air de doute.
Ce n'est pas tout encore. Je trouverai peut-être un remède à mes ennuis en m'occupant sérieusement des affaires, en songeant en même temps à ma gloire et à celle de mon pays. Mais j'ai besoin d'amis, madame. J'ai besoin d'affection sincère. J'ai besoin de m'appuyer sur un cœur véritablement à moi. Et ce ne sont pas mes compagnons de plaisir. Ce ne sont pas mes fausses maîtresses qui sécheront mes larmes lorsque je ne puis plus les empêcher de couler.
Si la bonne Aïssée avait été à ma place et qu'elle n'eût point aimé son chevalier, elle se serait embattée d'une passion charitable pour ce pauvre régent, qui répéta plusieurs fois ensuite, d'un ton pénétré,
« Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. »
Quant à moi, j'étais bien de nature à m'attendrir un peu sur cette infortune inattendue, à la consoler pendant quelques heures, à tâcher de la transformer en joie surtout. Mais un sentiment profond n'a jamais été mon fait. Entraîné par la sensibilité de mon âge, où les nerfs sont si faciles à ébranler, je me pris de pitié et je ne pus m'empêcher de le laisser voir.
Le régent n'était pas homme à méconnaître mes impressions. Il s'y trompa comme je m'y trompais moi-même. Et pendant quelques heures, il crut fermement avoir rencontré l'antidote de sa douleur, comme je crus très sincèrement avoir chassé de mon souvenir les obstacles de mon passé et les chimères de mon avenir. J'en fus, je l'avoue, fort heureuse. Le prince le fut encore plus que moi. Il sentait plus vivement, et il cherchait depuis longtemps cette divinité de sa vie, pour l'adorer. Je ne vous raconterai pas ce qui se passa, ce que nous dîmes dans ces moments d'illusion. Il devint, pour me plaire, un héros digne de l'immortalité. Il réforma tout, il nous délivra des abus, il chassa ses mauvais conseillers et se composa un aréopage merveilleux. J'écoutais, j'approuvais, je renchérissais encore. Le jour perçait depuis longtemps à travers les plis des rideaux et éteignit l'éclat des bougies. Nous n'y songions pas. Nanette vint nous le rappeler. « Il faut partir, monseigneur, » dit-elle. « Voici le moment de votre sommeil, et vos gens doivent venir vous éveiller dans votre lit. »« Ah, oh, c'est vrai, Nanette, tu ne sais pas à quoi tu nous arraches. »« Monseigneur, je pense à votre santé. Madame peut dormir toute la journée, si bon lui semble. Mais vous, il vous faut paraître à votre habitude, et je ne veux pas qu'on vous tue tout à fait, mon pauvre Philippe. Je n'y aiderai pas, du moins. » J'étais, quant à moi, tout interdite en ce moment. Il me semblait sortir d'un rêve, et je cherchais quelle suite lui donner, lorsque monsieur le duc d'Orléans me prit la main et me demanda d'un ton passionné, après le départ de Nanette, « Où vous conduira-t-on, mon ange ?» Que répondre ? Où aller ? La maison de mon mari et de ma cousine ne me semblait pas devoir s'ouvrir après cette nuit insensée. Le spectre de l'arnage se dressa devant moi et me rejeta l'un devant l'autre les serments prononcés le matin dans un bois enchanté. J'eus un moment d'étourdissement, de folie. Je crus que je perdrais la tête et je ne trouvai pas un mot à répondre, car ce mot eût peut-être été une dureté. « Je vous demande, belle marquise, bel ange consolateur, « où vous voulez habiter désormais ?» recommença-t-il. « Chez moi, monseigneur, chez moi. »« Chez vous, sans doute, seulement où sera ce chez vous ? Choisissez. La France est grande et tout entière à votre disposition. » Je me sentis blessé et je retirai ma main qu'il tenait encore. « Vous m'en voulez, vous ne me comprenez pas. Puisque désormais c'est vous qui me ferez vivre, puisque c'est vous qui me ferez grand, fort, invulnérable à tous les vices comme à tous les malheurs. Il ne faut pas que vous me quittiez. Il faut que je vous voie à chaque instant, que je vous consulte, que je trouve près de vous le courage dont j'aurai besoin. Et si vous vous éloignez, le diable est bien malin, il est très puissant aussi, l'habitude est ancienne. Il reviendra avec sa suite de douleurs et d'opprobre. Cependant, monseigneur, je ne puis... Lui aussi, comme moi, avait vu s'envoler son rêve avec le jour. Il me comprit. Ah, vous vous repentez. Ah, vous ne m'aimez pas. S'écria-t-il d'un ton pénétré. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû ne pas me fier à votre âge, à votre cœur facile. « Je suis trop malheureux, et je suis destiné à l'être toujours. » J'étais revenu à moi. Il me semblait cruel de le tromper encore. Cependant, j'essayais. Je retrouvais quelques douces paroles, quelques regards attendris. Il fit comme moi, il essaya d'y croire. Nous nous aperçûmes parfaitement l'un et l'autre que nous parlions et que nous regardions faux. Mais nous nous gardâmes de l'avouer. Cela eût été trop pénible. « Faites-moi conduire chez madame de Parabère, » dis-je, comme la conclusion de cette aventure. « Je ne prétends pas me cacher d'elle, et j'y trouverai le moyen de reparaître en mon logis sans laisser supposer ce qui s'est passé à d'autres qu'à elle. » Le prince ne fit pas une observation.
Cette demande lui apprenait mes intentions positives. En cachant ma faute, je n'y comptais pas donner de suite, ou du moins de suite réglée. Nos projets magnifiques s'écroulaient devant ma résolution. Maintenant qu'il était désennuyé, peut-être n'en était-il pas fâché. Peut-être trouvait-il le rôle de Charles VII près d'Agnès Sorel difficile à soutenir. Nanette fit revenir les gens. Je partis seule, toujours encapuchonnée, dans le carrosse qui m'avait conduite. Le régent me suivait de l'œil par la fenêtre. C'était sa dernière bonne pensée qui s'en allait avec moi. Un autre carrosse l'emmena de son côté, et il reprit sa vie habituelle. Peut-être le souvenir de cette nuit lui vint-il comme un remords. Il envoya chez moi, le lendemain, le mari de Nanette avec son portrait, non pas tel qu'il était alors, mais à l'âge de 16 ans, à l'âge de toutes les promesses de sa beauté, de son esprit et de son cœur. Je lui sus gré de cette délicatesse. Il ne m'a jamais donné que cela. Il est vrai qu'alors je n'aurais pas accepté autre chose. Madame de Parabère, en me voyant arriver, ne prononça que ces mots. Je m'en doutais. Elle était au lit encore, bien entendu, mais on m'introduisit, elle en avait laissé l'ordre. Elle écouta mon odyssée sans m'interrompre et sans sourciller. Je comptais la voir très surprise. « Je connais cela, » me répondit-elle. « Il a de ces aspirations au bien qui font pitié quand on voit comment il retombe. Ceux qui ont gâté cet homme sont immensément coupables, en vérité. Et Dieu, j'espère, enverra ce chafouin de Dubois à tous les diables pendant l'éternité pour cette abomination. »«
Quoi ? Vous l'avez donc vu ainsi ? » repris-je.
« Moi et bien d'autres, c'est ce qu'on appelle ces retours de jeunesse. »
J'en fus profondément humilié, je l'avoue. Je croyais avoir été la seule favorisée de ce spectacle. Mon unique faveur avait été le retiro, et encore, qui sait ?
Chapitre 51. Madame de Parabère me donna de quoi rentrer chez elle sans attirer l'attention. Elle me fit reconduire par un vieil écuyer imbécile qu'elle gardait par charité et qui n'était bon qu'en porte-respect. Ma cousine, d'ailleurs, me voyait à peine. Ma vie ne lui convenait point. Elle n'en voulait pas être responsable et attendait impatiemment mon mari pour le prier de me loger ailleurs. Je savais qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Comme je me déplaisais fort en ce couvent, je commençai par écrire la première et par annoncer à monsieur du Deffant ma résolution de prendre un domicile à moi. Mes amis m'avaient découvert une petite maison assez agréable, dans un quartier retiré, sans voisins. Les voisins sont les plaies de la vie. Si j'y voyais encore, je ne resterais pas ici à cause de cela. Mais une aveugle, tout le monde la regarde, n'importe où elle soit. D'ailleurs, je n'ai plus rien à cacher. Je dormis quelques heures ce jour-là. Je me levai sur le soir, et j'étais à peine habillée que l'on m'annonça la comtesse Alexandrine de Tencin. J'en ai déjà dit quelques mots. Je veux couler à fond son chapitre aujourd'hui. Je la voyais assez souvent, sans l'aimer, comme tous ceux qui la connaissaient. Madame de Tencin, sœur de Madame de Ferriol, on le sait, avait beaucoup de sa sœur dans le caractère. Mais sa beauté, mais son esprit, étaient d'un autre calibre. La comtesse Alexandrine tenait une grande place dans le monde. Elle y dominait singulièrement, sans être ni aimée ni estimée, je l'ai dit. Sa méchanceté, la façon supérieure dont elle menait sa vie et celle de son frère, le cardinal archevêque de Lyon, son adresse, son intrigue la faisait redouter partout. Quant à moi, je ne la recherchais pas. Je m'étais aperçu qu'elle cherchait à me faire parler pour mieux diriger sa barque au milieu des écueils. Elle me savait fort bien placée au palais royal et à Sceaux, les deux puissances du moment. Dès lors, elle me ménageait.
Je pouvais, dans un moment de détresse, lui être utile à quelque chose. Avait-elle découvert ma fortune? Avait-elle flairé quelque grâce à obtenir? Elle fut particulièrement charmante. Quant à moi, je ne restais pas en arrière, et nous eûmes, je vous l'assure, beaucoup d'esprit. Puisqu'elle revient sous ma plume, je ne la quitte plus, et c'est à son tour d'occuper la sellette. Elle y aura une bonne place, car peu de vies furent aussi orageuses que la sienne, vous pouvez m'en croire. Je la connais d'original par ses neveux d'Argental et Pont-de-Vel, qui furent et qui sont encore mes amis, depuis près de 70 ans que nous durons les uns à côté des autres. Ce n'est pas un bail d'un jour, et l'on a le temps de causer. Louise Alexandrine de Tencin était née avec les plus séduisantes qualités et les plus abominables défauts que Dieu puisse donner à une de ses créatures. Elle était belle, bien faite, d'un esprit prodigieux. Elle prenait tous les masques et tous les visages à volonté. Elle avait toujours l'esprit de celui à qui elle s'adressait, ce qui lui fit autant de partisans que d'auditeurs. Comme elle était la dernière des filles de sa maison, on la destina au cloître, et on la mit de très bonne heure au couvent de Montfleury, près de Grenoble. Dès cet âge si tendre, elle avait une résolution inébranlable et la volonté positive de ne pas se laisser enfermer. Elle aimait le monde, elle en avait besoin. L'intrigue était sa vie déjà, et à peine entrée à l'abbaye, elle la bouleversa entièrement. Les religieuses la prirent en amitié, ou du moins les jeunes, à cause de la singulière doctrine qu'elle leur prêcha et des ressources qu'elle trouva pour les amuser. Elle fit jouer la comédie aux pensionnaires, aux postulantes. Elle leur organisa des réunions où l'on appelait toute la province. L'évêque, d'abord un peu récalcitrant, finit par les approuver, lorsqu'Alexandrine lui en eut démontré l'innocence et la nécessité pour occuper l'esprit des jeunes recluses. « Cet enfant, disait-il dans son enthousiasme, sera une mère de l'Église, une vraie lumière. Elle sait tout. » Elle savait tout, en effet, sans jamais avoir appris grand-chose. Elle était fort paresseuse pour les études et ne trouvait d'activité que pour le mouvement. Ce monastère se transforma, elle le fit vivre. Elle resta ainsi jusqu'à l'âge de 16 ans. Madame de Tencin, venant la voir après le mariage de sa sœur avec monsieur de Ferriol, lui annonça que sa seconde sœur serait bientôt également pourvue, et que, quant à elle, elle devait se disposer à prendre le voile dans 3 mois. « Madame, répondit la novice, je n'en ai aucune envie. » « Allons donc, ma chère, vous êtes fort ambitieuse, et vous ne trouverez nulle part une condition meilleure. Vous serez abbesse avant d'avoir 25 ans. Quel mari vous donnerait une meilleure place ?» « Aussi, madame, je ne veux pas d'un mari. »« Que vous faut-il donc alors? Resterez-vous fille ?»« Non, madame, il me faut un chapitre. »« Votre père ne veut pas en entendre parler. Ses projets sont arrêtés. Ses 2 derniers enfants seront d'église. Votre frère et vous, vous vous aimez fort, vous vous servirez l'un l'autre. » Alexandrine ne se tint pas pour battue. Elle pria, supplia, conjura, rien n'y fit. Elle alla jusqu'à menacer de refuser ses vœux à l'autel. Sa mère ne fit qu'en rire et lui demanda si elle serait plus avancée d'avoir tous les ennuis du couvent sans en recueillir les bénéfices. Cela fit réfléchir la nonnette. Elle demanda 2 mois de plus pour réfléchir encore. On les lui accorda, très décidée à passer outre si les réflexions n'étaient pas favorables. Alexandrine, toute jeune qu'elle était, comprenait d'instinct que le temps gagné est souvent une grande chose. Le diable la protégeait. Il conduisit à l'abbaye un jeune directeur, nommé, je crois, l'abbé Fleuret, fort zélé, fort pieux, mais aussi bête que saint, ce qui n'était pas peu dire. Mademoiselle de Tencin le connut en 8 jours et découvrit en lui le germe d'un auxiliaire. Elle commença par l'intéresser en lui confiant ses peines et ses combats, en se couvrant à ses yeux d'un masque d'hypocrisie qui la fit pour lui tout aussi pieuse, tout aussi zélée que lui-même. Seulement, elle déplorait son malheur. Sa vocation ne l'appelait pas au cloître. Elle ne s'accoutumerait point à cette vie d'égoïste. Son cœur avait besoin d'aimer sur la terre. L'amour de Dieu ne pouvait le remplir tout entier. Le bon prêtre la plaignit, l'admira, la soutint dans ses combats, publia tout haut qu'elle était forcée, mais qu'elle priait de si bon cœur, qu'elle implorait la vocation à si grand cri, que Dieu ne resterait pas sourd, et lui enverrait cette dernière grâce, indispensable à son bonheur, puisqu'elle devait absolument prononcer ses vœux. Les deux mois s'écoulèrent. Alexandrine protesta toujours. La volonté des parents fut souveraine. Elle marcha à l'autel. Elle devint professe. Tout eût été consommé pour une autre. Pour elle, ce ne fut qu'une vaine formalité. Elle avait son plan. Elle résista de façon à rendre sa résistance authentique, à démontrer combien elle était contrainte et combien elle détestait la profession qu'on lui avait imposée. Cependant, elle donna les plus grands exemples de ferveur. Elle remplit ses devoirs de façon à édifier ses compagnes et à se faire hautement louer de sa bonne conduite. L'abbé Fleuret la proclamait un ange. Il ne voyait rien à lui comparer en ce monde. Les plus illustres saintes du martyrologe ne lui venaient pas à la cheville. Sans s'en apercevoir, sans en avoir l'intention, sans s'en douter, il en vint à ne s'occuper que d'elle. Il l'entendait presque tous les jours en confession et recevait les aveux de sa conscience timorée. Elle s'accusait d'imperfections si légères qu'il la reprenait même de sa délicatesse. Tout l'effrayait, tout lui portait ombrage. Peu à peu, elle devint triste. Elle se mit à jeûner, à macérer son corps. En même temps, ses confessions étaient moins fréquentes, ce qui étonnait fort la communauté. Chaque fois qu'elle approcha des sacrements, ce fut avec crainte. Elle cessa de communier même, et lorsqu'on lui en demanda la raison, elle répondit « Je ne suis pas digne de recevoir la visite du Sauveur. » Les plus expertes déclarèrent que sans doute elle essayait de grands combats, qu'elle regrettait le monde et qu'il ne fallait pas forcer ses scrupules. Quant à l'abbé Fleuret, qui ne la voyait presque plus, sa vie était décolorée et il se mourait d'envie d'en apprendre le motif. Il alla la trouver un matin qu'elle était en oraison dans une chapelle dédiée à la Vierge et située au bout du parc. En l'apercevant, elle tressaillit et baissa la tête. « Ma sœur, lui dit-il, je ne veux pas vous déranger, mais vous avez besoin de moi, j'en suis sûre. » Et je suis venue. » Elle se releva, après un moment d'hésitation, et l'assura qu'elle était fort bien, qu'elle n'avait besoin de personne, que de la protection de Dieu et des prières de tout le monde. « Je suis imparfaite, ajouta-t-elle. Vous le savez mieux que personne, mon père. À présent, me voilà dans un temps de sécheresse, où je ne puis approcher des sacrements, où la méditation m'est pour ainsi dire impossible. Je dois donc me taire et m'humilier. »
Vous devez vous humilier sans doute, mais vous ne devez pas vous taire. Au contraire, vous devez parler à moi, votre guide spirituel, à moi qui ai mission de vous conduire aux portes du salut. Vous souffrez. Quelques mauvaises pensées vous obsèdent. Vous fuyez votre Dieu, tandis que vous devriez vous jeter dans ses bras. Je vous apporte sa parole. Je vous apporte du courage. Avouez tout et écoutez-moi. »
Alexandrine se fit prier longtemps. Elle commença, puis elle s'arrêta, puis elle recommença de nouveau, puis elle s'arrêta encore.
« Je ne pourrai jamais !» s'écria-t-elle enfin.
« De la volonté !» reprenait le pauvre homme, poussé par son zèle et par le sentiment inconnu qui remplissait son cœur à son insu.
« Il ne s'agit que de vouloir !»
« Je ne le puis pas, je ne vous parlerai pas, mon père. Mais il faut que cela finisse. J'en mourrai et je mourrai coupable. Je vous écrirai.
Bientôt ?
Ce soir même, je vous le promets. Maintenant, laissez-moi, je vous en conjure, laissez-moi me recueillir. »
Le brave homme obéit. Il avait beaucoup obtenu. Il était heureux. Alexandrine ne se montra pas de la soirée. Elle resta dans sa cellule ou dans la chapelle. Elle en avait la permission. Celles des religieuses qui l'aperçurent se récrièrent sur sa pâleur et ajoutèrent que certainement elle était malade. La prieure monta près d'elle pour s'en informer. Elle la trouva écrivant, et comme elle lui demandait à voir cette lettre, ainsi que c'était son droit, « J'écris à mon confesseur, » répondit-elle. Toute investigation s'arrêta devant ce mot. La lettre fut achevée. « Cette lettre, j'en ai le double, et vous allez la lire. Elle vous fera bien connaître la comtesse Alexandrine, en y ajoutant surtout les quelques lignes qui sont à la fin, adressées à son neveu Pont de Vel, qui lui avait demandé cette copie. » Madame de Tencin ne reniait pas ses turpitudes lorsque cela ne pouvait lui nuire. Elle faisait assez bon marché d'elle-même en ce genre et ne prenait pas la peine de se cacher. Elle tenait fort peu à l'opinion publique. La seule réputation qu'elle renia était celle de maladroite. À cela près de son esprit, elle permettait de tout calomnier. Voici donc la lettre. Vous voulez savoir ce qui m'agite et me tourmente, mon révérend père, et il est de mon devoir de vous le dire. Je vous dois un aveu pénible et cruel, un aveu qui me tue, et qu'il est cependant impossible de vous sceller plus longtemps. Sans vous, sans la protection du ciel, je n'ai plus qu'à mourir, car je suis indigne de vivre. Dieu et vous, voilà mon espoir. Hélas, je suis une grande pécheresse. Je suis une misérable créature. Je ne sais comment vous découvrir ce que j'ai dans le cœur, ni quel sentiment coupable domine ma vie malgré moi, en dépit de mes efforts. J'ai employé tous les moyens de me guérir, or un seul, et c'est celui-là que je vous demande. C'est celui-là que vous pouvez m'obtenir. C'est un moyen suprême. C'est le comble de mes vœux, et vous ne me le refuserez pas. Je ne suis pas faite pour la vie religieuse, mon père. Chacun le sait. Vous avez souvent reçu l'aveu de mes combats, de mes douleurs, de ce que j'ai enduré depuis que la volonté de mes parents m'a condamnée au cloître. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai conjuré à genoux. Ma mère a été sourde à ma prière. On l'a voulu, j'ai obéi. J'ai prononcé mes vœux. Depuis lors, une pensée incessante s'est emparée de mon cerveau. Une affection unique domine mon cœur. Mes parents m'ont chassé de leur maison pour me jeter dans le sein de Dieu. Je n'aime plus mes parents, et ce n'est pas Dieu que j'aime. J'aime un homme, et cet homme, je ne dois pas l'aimer, car il n'est pas libre, car nous appartenons tous les deux au monastère. Car, en l'aimant, je commets un sacrilège. En vain, je pleure, je souffre, je meurs. Cet amour est plus fort que mes forces, plus fort que ma volonté. Il m'entraîne non seulement à ma perte, mais à mon malheur, car cet homme ne m'aime pas, ne m'aimera jamais. Cet homme est un saint pénétré des devoirs de son ministère et dont le regard pieux n'est jamais tombé du ciel sur la terre. Vous voulez savoir cette terrible vérité. La voilà, mon père. La voilà telle que Dieu la voit. Le danger est terrible. Et ce danger, vous pouvez m'y soustraire. Vous le pouvez si vous voulez penser à mes souffrances et à leur suite. Il faut que je quitte ce monastère. Il le faut, sous peine d'être perdu dans cette vie et damné dans l'autre. Si vous avez le zèle de la maison du Seigneur, vous m'arracherez à mes tortures. Vous me remettrez dans le milieu où je devais vivre. Vous m'enlèverez à la honte et à la misère qui m'attendent. J'ai confiance en vous, mon père. Je vous ouvre mon âme parce que je connais votre bonté, aussi grande que votre vertu.
Je vous dis ce que seul au monde peut-être vous deviez ignorer, parce que vous puiserez dans cet aveu la volonté nécessaire à ma délivrance. J'attends et je souffre. Si vous tardez, je ne pourrai plus combattre, je succomberai. Et je ne succomberai pas seul. L'innocent viendra vers la coupable. Ma voix l'attirera à moi. Ma voix adoucie par mes larmes. Mon cœur, brisé par mes luttes et mon désespoir, y résistera-t-il? Le croyez-vous, mon père? J'ai 18 ans et je suis belle. Il ne le sait pas encore, mais il le saura. Mais il le verra quand je lui dirai que je l'aime. Le démon m'inspire. C'est lui qui conduit ma plume. C'est lui qui me pousse vers cet abîme. Et je vais infailliblement tomber, si votre main secourable ne se tend pas vers moi. Ayez pitié de ma douleur, de mes craintes. Sauvez-moi, sauvez-moi, et que Dieu vous le rende. Je ne demande pas à rentrer dans le monde. Un chapitre s'ouvrira pour me recevoir. Mais au moins, je ne serai plus condamné à ce silence, à ces murailles, à ce tombeau anticipé. Mais au moins, la vie m'apparaîtra de loin. J'en entendrai les échos. Si je ne puis me jeter dans le tourbillon qui me transporte et m'enivre, et puis j'oublierai, peut-être. Au-dessous de ces mots, il y avait ceci de la main de la chanoinesse. Vous comprenez, mon cher enfant, que je n'en pensais pas un mot, pour lui du moins, et que si j'avais envie de rentrer dans le monde, un pauvre pistolet, un abbé crotté tel que celui-là pouvait tout au plus me servir d'instrument. Cette comtesse Alexandrine était une misérable créature qui m'a toujours inspiré une répulsion épouvantable. Certes, je ne suis pas dévote et je ne saurais l'être. J'en aurais envie que je ne le pourrais pas, avec la meute qui m'entoure. Il ne permettrait pas qu'un prêtre m'approchât, même dans le couvent que j'habite, autrement que pour la conversation la plus banale. Eh bien, quelquefois, souvent, j'ai envie de me soustraire à leur moquerie, de rentrer dans le sein de cette religion où je suis née, que ma mère, que ma tante ont servie avec tant de ferveur. Je ne veux pas mourir en païenne. La mort n'est désarmée que par cette main divine qui porte l'espérance et qui détache doucement des biens de cette vie. J'ai vu mourir Aïssée, elle est au ciel. J'ai vu mourir des méchants, des impies. Ils sont en enfer, et je ne veux pas y aller comme eux. Madame de Tencin était une habile personne. L'on dit qu'elle a eu bien des terreurs aussi. Les plus fameux philosophes en ont. Voltaire n'a-t-il pas communié, lorsqu'on l'a effrayé des diables, de leurs cornes et de leurs queues? Chapitre 52. Il était facile de se figurer la terreur de ce bonhomme de prêtre, très timoré, très craintif, en lisant une pareille lettre. Il ne comprit pas au juste qu'il s'agissait de lui, bien que l'épître fût d'autant plus claire qu'elle ne voyait pas un autre homme, si ce n'est le sacristain ou monsieur l'évêque de Grenoble, vieillard de plus de 80 ans. Il se sentit frémir des pieds à la tête, car, en sondant sa conscience, il découvrit que cet amour coupable, il était très près de le partager, s'il ne l'avait pas devancé déjà. Ce fut pour lui un coup de foudre. Il en tomba malade et resta 15 jours sans reparaître au couvent. Sa première idée fut de quitter sa charge et de demander un remplaçant. Des lettres réitérées et du même style le confirmèrent dans cette idée. Il faut fuir le danger si l'on n'y veut pas succomber. Il eut ensuite une autre pensée. C'est que sa conscience ne lui permettait pas de laisser dans la communauté une brebis galeuse qui pourrait non seulement se perdre, mais compromettre les autres. Elle demandait à sortir du cloître, ses vœux avaient été forcés, il le savait. Il pouvait en témoigner à ses supérieurs ecclésiastiques sans manquer au secret de la confession. Elle le lui avait dit et répété 1000 fois. Après avoir réfléchi, il se décida et commença les démarches. La belle n'en voulait pas davantage. Il la vit une fois pour le lui annoncer, puis il alla s'installer à Grenoble et jura qu'il ne reviendrait pas à Montfleury qu'elle n'en fût dehors. L'évêque était un saint homme, un bon homme, encore très lucide malgré son grand âge. Il résidait à son évêché depuis plus de 30 ans et connaissait toutes ses ouailles. Il écouta les réclamations de l'abbé Fleuret, alla lui-même interroger mademoiselle Tansin. Après l'avoir vue et entendue, il comprit que sa vocation l'appelait ailleurs, qu'elle ferait une mauvaise religieuse et qu'elle amènerait peut-être quelques scandales dans l'église. En conséquence, il se chargea d'obtenir son changement d'observance, d'annuler des vœux prononcés par les lèvres seulement, ou plutôt de les modifier en ces vœux élastiques des chanoinesses, qui ressemblent à tout, excepté à la vie religieuse. En quelques mois, la chose fut faite. La sœur Augustine fut transformée en comtesse Alexandrine de Tansin, chanoinesse du chapitre de Neuville, un des moins courus en ce temps-là. On juge avec quelle joie cette nouvelle comtesse jeta son voile au nuage. Elle dit adieu à ses compagnes avec toutes sortes d'attendrissements. Elle jouait déjà la comédie à miracle. Elle les chargea de ses souvenirs et de ses remerciements pour le cher directeur, auquel elle devait la grâce de ne pas rester plus longtemps exposée à un sacrilège. Mais elle ne lui écrivit rien. Il n'était plus nécessaire à ses vues. C'était un instrument à briser et à jeter loin d'elle. Elle n'y manqua pas dans tout le reste de sa vie, et elle commença cette fois. Après avoir passé quelques semaines dans sa famille, elle fut conduite à son chapitre par son frère, l'abbé de Tansin. Leur grande intimité, dont on a tant et si bêtement parlé, s'établit alors. « Je ne gâte pas la comtesse Alexandrine, je reconnais ce qu'elle eut de tort, et ils furent grands. Mais je ne puis lui laisser attribuer des crimes semblables à celui-là. Elle aimait son frère, ce qui était naturel. C'est peut-être le seul sentiment louable de sa vie. Ne le lui ôtons pas par de sales propos. Elle ne fut pas non plus la mère de D'Alembert, et je l'ai souvent répété à celui-ci, lorsqu'il se rengorgeait pour le faire croire. Qui dit philosophe, dit vaniteux. Madame de Tansin eut beaucoup d'amants, je ne prétends pas le dissimuler. Mais ses enfants moururent au berceau, je l'atteste, et par conséquent, elle ne les renia pas. Vous allez savoir son histoire aussi bien que moi. Vous pourrez ensuite l'attaquer ou la défendre, selon qu'il vous plaira, mais avec justice au moins. La comtesse Alexandrine était trop habile pour ne pas se conduire à son chapitre de façon à s'attirer la bienveillance et l'amitié de tout le monde. Elle débuta, comme à Montfleury, par les amuser, tout en se montrant très régulière et en ne laissant pas de prise à la critique. Il ne fut pas de chanoinesse qui ne la prit en affection et qui ne chanta ses louanges. On en écrivit à ses parents, à l'évêque de Grenoble, qu'il avait recommandé, on le remercia du précieux cadeau qu'il avait fait au chapitre, et on le supplia d'employer encore son crédit pour que la prébende de la nouvelle venue arrivât bientôt à la plus forte somme, acquise d'ordinaire par l'âge ou par un mérite transcendant. Ce n'était pas qu'elle l'eût demandé. Madame de Tansin ne regardait pas à si peu, et elle avait d'autres projets. Elle laissa faire, elle montra une reconnaissance très vive, elle fut plus charmante encore. Elle s'astreignit aux règles, annonçant hautement qu'elle n'avait pas quitté son cloître pour mener une vie plus relâchée, mais parce qu'elle ne se sentait pas assez parfaite pour l'observance exacte des lois sévères de saint Augustin. Je crois que l'abbaye de Montfleury était habitée par des Augustines. Ainsi, elle était souvent des heures entières à l'église. Dieu sait ce qu'elle y pensait. Elle faisait honte par sa conduite aux autres chanoinesses, un peu mondaines, comme elles le sont toutes, mais sans se permettre une critique ou une observation. Pendant ce temps, elle creusait sa mine, sans qu'on s'en doutât. Madame de Tansin ne comptait pas passer sa vie à Neuville. Ce n'eût été que changer de prison. Elle voyait devant elle Paris, ses intrigues, son éclat et ses aventures. Il fallait y arriver, et y arriver convenablement. Madame sa mère ne l'y eut pas envoyée, et surtout, elle n'eût pas pu lui procurer les moyens d'y vivre. La comtesse Alexandrine s'introduisit tout doucement dans la confiance de l'abbesse. Elle la flatta, la caressa tellement qu'il fut impossible à celle-ci de se passer d'elle, et qu'elle captiva toute sa confiance. L'abbesse lui annonça un jour qu'elle la prenait pour son secrétaire, et qu'en cette qualité elle entrerait au conseil. À 20 ans, c'était un triomphe, cela ne s'était jamais vu. La comtesse n'en montra que de la reconnaissance et resta modeste, de façon que personne n'en prit ombrage, au contraire. Elle se fit ainsi pardonner sa faveur. Dès qu'elle eut connaissance des affaires, elle s'y introduisit et s'en empara si bien qu'elle les conduisit toutes. Son bonheur voulut que, justement, le chapitre fût en litige avec un seigneur voisin pour certains privilèges que les chanoinesses ne consentaient pas à abandonner. La cause se discutait à Lyon, mais elle se discutait aussi et surtout à Paris, devant le conseil du roi. Madame de Tansin prétendit que l'affaire était mal défendue, mal présentée, et montra des lettres, prouvant, clair comme le jour, qu'elle serait perdue si on continuait de la sorte. « Il faudrait là quelqu'un qui s'occupât exclusivement de ce procès, » dit-elle timidement. « Sans doute, » répondit-on. « Mais qui ?»« Ah, c'est difficile !» Alors chacune de ces dames de donner son avis. « Je ne sais pas pourquoi les chapitres n'ont point de plénipotentiaire près de sa majesté, » car nous sommes des espèces de puissance. Nous avons des vassaux, nous avons des tenanciers, nous avons des intérêts graves à la cour. C'est une idée à examiner. Je vous y engage beaucoup, madame. Songez donc quelle importance acquerrait ainsi le chapitre de Neuville. Vous avez raison. Nous devons choisir une personne capable de représenter madame l'abbesse et le chapitre, qui nous fasse honneur de toute façon.
Quelque dignitaire de l'église?
Non pas, une de nous. On ne fait jamais mieux ses affaires que soi-même.
Qui cela?
Je l'ignore.
Nous avons plusieurs de nos dames en congé, mais pas une d'elles ne réunit les qualités nécessaires.
La première, c'est l'intelligence.
Puis la mesure.
Puis le tact.
Puis la beauté qui ne gâte rien,
et la conduite la plus régulière.
Mais c'est une perfection que vous demandez là, mesdames, conclut l'abbesse.
Chacune donnait son avis et lançait son mot, excepté madame de Tansin, qui, depuis qu'elle avait proposé la chose, gardait un absolu silence et observait.
Et vous, comtesse Alexandrine, lui demanda l'abbesse, vous vous taisez? Quelle est votre pensée?
Je pense que vous avez raison, madame, et que ces dames exigent une perfection impossible.
Non pas, reprit une vieille. Nous la trouverons sans aller bien loin.
Et où donc?
Vous, madame de Tansin.
Moi? Et elle rougit de plaisir d'être enfin arrivée au but de ses désirs. On prit cette rougeur pour de la modestie.
Hé, certainement, poursuivit l'abbesse. Seulement, comment ferons-nous pour nous passer d'elle?
Un grand soupir fit le tour du cercle et répondit à la question.
Mesdames, murmura la comtesse, vous me confusionnez, vous me faites trop d'honneur, je ne suis pas digne.
Vous êtes digne de tous les éloges et de tous les honneurs. Voilà qui est convenu. Vous nous représenterez.
Mais comment reconnaître?
Elle se fit prier 8 jours. répétant que c'était pour elle un trop grand sacrifice, qu'elle haïssait le monde, qu'elle voulait vivre dans la retraite. Enfin, les faux fuyants de l'orgueil et de l'hypocrisie, auxquels on se laisse prendre et qui réussissent toujours. Admirez comment, dans une assemblée nombreuse, s'il se trouve un être perverti et intelligent, il conduira les autres et trouvera le secret de se faire admirer. Les gens primesautiers, les gens loyaux, n'avancent à rien sur la terre et dans la société telle qu'elle est faite de nos jours. Je le sais par moi-même et par ce que j'ai vu. Dans les rares occasions de ma vie où je me suis laissé emporter par mon cœur, je n'ai jamais manqué d'en être dupe, voire même dans mon affection pour M. Walpole, qui m'en cherche querelle d'un bout de l'année à l'autre, et cela parce que je l'aime trop. Il ne verra ceci qu'après ma mort. Aussi, je ne me soucie guère d'être grondée. Je n'y serai plus pour l'entendre. Je n'ai jamais aimé qui que ce soit autant que lui. J'en puis répondre. Je n'avais pas ces agitations pour Formont, pour le président Hinault, pour Pont-de-Vel, ni pour aucun autre. C'est bien la peine d'arriver à être une vieille presque octogénaire, aveugle, pour avoir de ces sentiments-là.